Stop, c'est parti. Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
You are fake news.
La bonne réponse.
Il est 9h40, vous êtes tous et toutes les bienvenus sur France Inter pour ce nouvel instant M.
Quand on regarde une série, on sait que ça va se terminer.
Vous voulez me spoiler?
Spoil.
On ne se ferme pas les yeux aussi facilement qu'on se bouge les oreilles.
Mytho, c'est la nouvelle série d'Arte. À l'heure des fake news et de la post-vérité, la chaîne se penche sur les effets du mensonge. Mais au lieu d'en explorer les effets politiques, elle fait le choix du repli intime et familial. Mytho, une maman de 3 enfants qui enchaîne, comme nous toutes, les journées de boulot, les courses, la bouffe, les lessives, les devoirs et les ados qui s'engueulent. Une femme qui ne va ni bien, ni mal, mais qui n'a plus d'espace, ni d'oxygène, ni amour, en fait. Parce qu'elle en donne de l'amour, mais que les autres oublient de le lui rendre. Et voilà que se profile notre terreur à toutes, le cancer du sein. En fait non, elle n'a rien, et puis si, tant pis, on n'aura qu'à faire comme si. Mytho ou comment être prise au piège d'un gros pipeau. Quoique, Mytho, une série oxymore sur la maladie qui soigne et sur le mensonge qui dit vrai.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Je sais que vous comprenez, parce que vous avez l'air d'une tourte, Elvira, mais vous avez quelque chose. Et c'est dommage que vous passiez votre vie à vous acharner, à le gâcher, ce quelque chose.
Mon rêve, en fait, c'est de dire cette semaine à quelqu'un qu'il est une tourte. Bonjour à tous les deux, bonjour Anne Berest, c'est vous qui avez écrit Mytho, soyez la bienvenue.
Merci, bonjour.
Bonjour à Fabrice Gobert, c'est vous qui l'avez mis en scène.
Bonjour,
voilà.
Merci.
Mytho est déjà disponible sur le site d'Arte, commence demain soir à la télé. Marina Hans est votre héroïne, Elvira, une partition d'actrice particulièrement riche et créative.
Ce signal d'alarme, c'est pour nous rappeler qu'on est une famille. Et qu'il faut qu'on soit tolérants les uns avec les autres. Sinon, qui le sera pour nous? Il y a si peu d'amour dans ce monde. Je veux une maison en paix.
C'est intéressant, Anne Berest, parce que votre Elvira, c'est évidemment une femme qui veut de la considération, qui veut du respect, qui veut qu'on fasse attention à elle. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui se révèle très heurté par la brutalité des rapports sociaux en général.
Oui, en fait, c'est une femme qui comprend pas pourquoi on n'est pas, enfin, c'est-à-dire, c'est idiot, hein, qui comprend pas pourquoi on n'est pas gentil les uns avec les autres, pourquoi on se parle mal. Et le point de départ aussi, c'est qu'elle comprend pas pourquoi elle réussit pas, alors qu'elle a acheté vraiment une merveilleuse choucroute au supermarché, pourquoi personne ne vient autour de la table le soir pour la manger, pourquoi tout le monde a des choses à faire. Elle est étonnée, en effet, de la brutalité du quotidien.
La brutalité du quotidien, mais ça signifie que dans le petit noyau nucléaire qu'est la famille, il y a quelque chose de toute une société fracturée et polarisée qui se joue.
Oui, moi je crois qu'on peut raconter la société à travers une famille, à travers 5 personnes. On peut raconter une ville à travers un domaine pavillonnaire. C'est une façon de regarder à la loupe. Au microscope et de se dire si on regarde comme ça de très 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 près, et on peut peut-être dire des choses qui concernent beaucoup beaucoup de gens.
Elle est très ouin-ouin, votre Elvira, elle subit. Alors évidemment, ouais. Cette série n'a d'intérêt que si votre personnage évolue, que si elle passe de la femme et mère piétinée à maître des illusions, que si le mensonge elle y prend goût et que si elle en joue. Est-ce qu'on peut parler, Fabrice Gobert, de la façon dont vous avez dirigé Marina Hans dans cette évolution et des premiers épisodes, de la façon dont elle marche, tout simplement, de cette démarche un peu clownesque, un peu burlesque, complètement empêchée?
Ben ça, c'est pas quelque chose dont on a parlé précisément avec Marina, mais c'est là où elle était très très créative, parce que c'est une fantastique comédienne, et elle a tout à fait compris qu'elle devait créer un personnage de toute pièce qui est très très loin d'elle.
Et que ça devait passer par le corps.
Et que ça devait passer par le corps, exactement, par sa façon de rire, sa façon de bouger, sa façon de prendre ou ne pas prendre ses enfants dans les bras, par exemple. Mais quand on a commencé à travailler avec Marina, elle était étonnée parce qu'elle me dit, je comprends bien le personnage, je vois vers quoi elle va, mais au début, je sais pas quoi jouer dans les premières scènes. Et je lui disais, c'est normal, c'est parce qu'en fait, t'es un personnage secondaire. Et c'est l'histoire de ça, c'est l'histoire d'un personnage secondaire qui veut redevenir la star de sa vie. Et en fait, elle était, parce que dans les scènes, au tout début, elle est assez passive, mais on la voit effectivement marcher, on la voit écouter, on la voit se prendre dans la tête tout ce qu'elle se prend, et c'est rare
de trouver. Elle a un petit côté Buster Keaton au début, hein, mais dans complètement. Cette façon de marcher complètement raide avec ses
choses,
petits pas.
Exactement, il y a quelque chose de burlesque, il y a quelque chose de, de l'ordre d'un comique de gestuelle qui est rare et elle est merveilleuse.
Alors, Mito est une série chorale, un vieux standard américain interprété à tour de rôle par tous les personnages de la série. No, I won't be afraid. Alors pourquoi c'est une série chorale ? Eh bien, tout simplement parce que le problème du mensonge, mais j'imagine du coup son intérêt en termes de scénario, c'est l'effet papillon. C'est la réaction en chaîne que le mensonge de l'un entraîne sur les autres, Anne Berest.
Oui, en fait, on va se rendre compte que la famille est le premier endroit et le premier lieu du mensonge. En fait, peut-être que à l'adolescence même, je dirais qu'on a besoin de mentir pour se construire. Et petit à petit, c'est comme un domino. Un mensonge en entraîne un autre qui en entraîne un autre. Et on explore sans juger à la fois les vertus du mensonge, parce qu'au début, c'est comme une baguette magique pour Elvira. Oui. Et en même temps, on va aussi dire que il y a des résultats, il y a des conséquences au mensonge, et que si on joue avec le feu, on se brûle.
Pourquoi vous vous autorisez comme ça une petite échappée Fabrice Cobert tricotée en musique?
Mais ça, c'était dans le scénario d'Anne et c'était formidable. C'est-à-dire qu'il y avait l'envie d'être toujours surprenant et d'emmener les personnages là où on s'attend pas, de surprendre le spectateur aussi. Normalement, on fait quand il y a des séquences comme ça, déjà c'est assez rare effectivement qu'une série parte en comédie musicale. Mais c'était surtout dès l'épisode 2, dès le milieu de l'épisode 2, parce que ça vient assez tôt dans la série, mais ça racontait quelque chose du lien affectif qui est noué entre tous ces personnages d'une manière extrêmement visuelle, enfin auditive, je sais pas comment on dit, mais c'est ce que j'ai ressenti en lisant les scénarios d'Anne, c'était le besoin que la forme raconte des choses que peut-être les dialogues ou les situations ne racontaient pas. Et moi, je m'engouffre quand il y a ça, parce que j'adore ça.
Alors,
sur cette scène, ce qui est quand même marrant et ce qui raconte comment on fabrique une série, c'est que moi, cette scène de comédie musicale, j'avais écrit que il y avait de la musique de Stand By Me, mais que les acteurs chantaient en playback. Et c'est Fabrice qui a eu l'idée de les faire chanter pour de vrai. Et je trouve que la série, c'est vraiment l'endroit d'une utopie collective où plein d'artistes travaillent ensemble pour fabriquer quelque chose. Et cette scène-là, elle est vraiment représentative du travail en commun.
Alors, chaque membre de la famille va du coup être confronté à ses petits et à ses grands mensonges. Voici un ado qui voudrait être une fille, mais qui ne l'est pas.
Sam, tu lui as dit ?
Maman, il vient d'arriver.
C'est pas bien. C'était le deal avec les profs. Tu dois lui dire la vérité.
Je sais. Je vais le faire.
Vous partagez la même chambre, c'est une question d'intimité.
Mais maman, c'est bon, je vais pas lui sauter dessus, d'accord ?
Il y a deux types de mensonges et du coup deux types de vérités qui sont explorées dans cette série. C'est faire face à ce qu'on est et faire face à ce qu'on fait ou à ce qu'on a fait en réalité. Anne Berest.
Oui, en effet, le mensonge, il y a c'est un mot pour dire beaucoup de choses, comme la jalousie d'ailleurs. Ce qui était important pour moi, c'est qu'on soit toujours à une frontière, qu'on ne juge jamais le personnage, qu'on se dise à chaque fois, oh oui, tiens, c'est vrai, moi je pourrais faire ça, mais elle, et c'est ça qui est beau dans la fiction, elle va toujours un peu plus loin que ce que nous on ferait. C'est pour ça qu'on a envie de la suivre.
Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Sam ne ment pas vraiment. Il se sent fille,
ça, c'est
alors
son
que
fils.
C'est un garçon, son,
ouais,
fils.
Son fils.
Et donc,
son
dans
ado.
La scène qu'on vient d'entendre, on comprend qu'il l'a pas dit à son correspondant allemand, dont il est amoureux, parce qu'il a peur que sinon l'idylle naissante ne puisse pas aller très loin. Et au fond, c'est presque le premier mensonge de la série, c'est-à-dire que c'est ensuite qu'Elvira va avoir peut-être cette idée de mentir en disant, peut-être que le mensonge peut améliorer les choses.
Et puis on sent bien que dans une famille, tout le monde a le droit de douter, tout le monde a le droit de se chercher, sauf la mère de famille. Comment ça va avec les hommes, Anne Berest ? Hein ? Comment ça va ? Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que dans cette série, les mecs sont tous plus petits que leurs amoureuses. Qu'est-ce qui les sauve, hein, du mari mou et lâche à son meilleur ami qui ne vaut pas mieux?
Alors c'est vrai, je me suis pas du tout posé cette question.
Il est temps de le faire.
C'est vrai que c'est vrai que c'est une série autour d'un personnage féminin, oui. Et que moi, dans tous mes livres, dans tous mes romans, je creuse le féminin, je creuse cette question-là avec peut-être, on peut le dire, une dimension féministe.
De là émasculer les hommes.
Non,
qui
mais
tourne autour des femmes.
En même temps, là où quand même, le mari d'Elvira. Non, mais le mari d'Elvira, grâce à Mathieu Demy, pour moi, il a un charme inouï.
C'est ça.
Mais c'est, pour moi, c'est aussi une série qui raconte qu'on on est un peu omnibulé par des stéréotypes et les garçons, les hommes de la série, je trouve, moi je les aime beaucoup, comme j'aime beaucoup les personnages féminins, parce qu'ils essayent tous de rentrer dans une case. Ils essayent d'être, sans doute que le personnage interprété par Mathieu Demy, Patrick, il essaye d'être cet artiste, ce photographe, ce type brillant qu'il n'est pas, donc il en souffre et il y a des répercussions à ça, mais au fond, Tous sont un peu. J'ai l'impression que tous ont des raisons d'essayer d'être mieux que ce qu'ils sont, et ils se mentent à eux-mêmes aussi beaucoup.
Je trouve ça génial qu'on soit à ce moment de l'histoire où on a besoin de se poser la question de la mauvaise représentation des hommes dans la série. Et je trouve que c'est une avancée.
C'est une avancée. Alors, gros choc, par ailleurs, Anne Berest, en regardant le premier épisode, il va falloir qu'on cause toutes les deux, peut-être même après l'émission. Il y a 10-15 ans, figurez-vous, mes copines et moi, quand quelqu'un nous pourrissait la vie, on jouait à le congeler. C'est une amie canadienne qui m'a appris ça. Même ma mère s'y est mise. Et voilà que je regarde Mytho. Et voilà que je découvre votre héroïne et sa pote devant le congélateur de la cuisine.
Le médecin m'a dit, Virginie, t'es très angoissée en ce moment. Je crois qu'elle s'identifie à cette petite fille. Anne Frank. Toi qui as déjà beaucoup souffert, pardonne-moi, mais c'est pour ma fille. Voilà. Je viens de congeler Anne Frank. C'est mal.
Ouais, mais ta fille aura plus de crise.
Et je peux pas congeler mon boss, il est infernal.
Non, une seule personne à la fois.
Si, on peut congeler son boss, je pense même que je l'ai déjà fait.
Oui, en ce jour de Kippour, une pensée pour Anne Frank. C'est de l'humour juif, hein, je tiens à le préciser. Cette chose de congeler marche, je tiens à le dire.
Oui, ça marche très bien.
C'est une copine qui le tenait de sa voyante. Oui. Et si vous avez un problème avec quelqu'un, il faut mettre son nom dans un sachet plastique, vous le mettez au congélo et vous n'avez plus de problème.
Sinon, ça marche aussi avec 3 pots de confiture vides. Bref, on en parlera après.
Je suis pas sûr que Virginie soit moins angoissée à la fin de la série. Hein, quand même. Je sais pas si ça marche.
Non, ce qui est intéressant, plus généralement quand même, c'est qu'on n'entre pas la meilleure amie d'Elvira qui tire le tarot. Elle n'a pas une once de crédibilité, hein, cette meilleure amie. Et puis, petit à petit, la série s'ouvre au yoga, aux pierres qui soignent, aux communautés de l'amour. Pourquoi ?
En fait, moi, je me rends compte que je vis mon quotidien et fais énormément d'irrationnel. Moi, je crois à plein de choses un peu étranges. J'ai des amis qui croient à la réincarnation. J'en ai d'autres qui lisent l'astrologie. En fait, nous sommes des êtres attirés par le non visible, attirés par des choses étranges. Et en fait, en essayant de parler de la vie, je me disais, il faut intégrer cette dimension irrationnelle dans nous sommes heureusement.
Sachant que ce monde irrationnel que vous tricotez coexiste avec la maladie, l'hôpital, la pharmacie, l'assurance, c'est-à-dire les piliers institutionnels de la rationalité. On est bien d'accord.
Vous parliez de série Oxymore, moi j'aime bien ça. C'est-à-dire que il y a des choses très très concrètes et des choses très très spirituelles. Et c'est notre monde, c'est là-dedans qu'on évolue et c'est ça qui est compliqué. Et c'est ça qu'essaie de raconter la série, c'est à quel point on est pris entre un désir de fiction, un désir de romanesque, et puis en même temps, le quotidien.
Des choses très spirituelles, dites-vous, mais on voit aussi très bien comment votre univers à vous, Fabrice Gobert, qui est le réalisateur des Revenants, s'engouffre là-dedans, parce que petit à petit, le fantastique s'immisce dans la narration par micro-touches et avec humour. Au début, il y a peut-être des petits clins d'œil, un peu comme le Édouard Romain d'Argent de Tim Burton, cette cette banlieue américaine pavillonnaire pleine d'absurdes et pleine d'étranges. Mais quand même, au fur et à mesure des 6 épisodes, l'atmosphère devient de plus en plus sombre et de plus en plus étrange.
Oui, et c'était nécessaire, c'est que effectivement, elle se lance dans un engrenage dont elle n'a pas du tout l'idée de l'issue. Et c'était logique, comme on est quand même vraiment c'est notre personnage guide, on est avec elle, elle sombre petit à petit dans quelque chose. Donc au début, effectivement, il y a des effets très positifs, et donc la série est plutôt dans un mode plus léger. Mais petit à petit, ce mensonge va lui sauter à la figure, et elle va petit à petit s'engager dans un mouvement de plus en plus dépressif, de plus en plus sombre, de plus en plus inéluctable, dans laquelle la série l'accompagne.
Et puis
là-dedans.
Dans mensonge, il y a songe, et il y a des moments où elle ne sait plus très bien où elle est, dans le réel ou pas dans le réel. Et c'est d'ailleurs vraiment la question. Et je me suis imaginé vos réunions avec vous, les producteurs, la chaîne, etc. Vous avez un cadenas de cette femme qui s'invente un cancer du sein. Vous pouviez en faire un parfait cadenas de comédie. Vous pouviez en faire un parfait canevas de tragédie. Comment vous avez choisi de placer le curseur, Anne Berès?
En tout cas, je sais pas si on l'a choisi, ça s'est fait un peu naturellement, mais c'est vrai qu'on parle de la maladie, on parle du cancer, et à la télé, on rentre chez les gens, on va chez eux. Mmh. Et pour moi, c'était important de me dire, il y a des gens qui ont le cancer qui vont regarder la série, il y a des gens qui ont leur mère qui a le cancer qui vont regarder la série. Moi, ma mère a eu un cancer du sein, et c'est aussi pour ça, en traversant cette maladie-là, que j'ai eu l'idée, en me rendant compte que la maladie, quand elle rentrait dans les familles, elle changeait la tectonique des plaques familiales. Donc je me suis dit, vis-à-vis des gens, du spectateur, je peux pas que faire rire. Il y a un moment donné, on va se confronter vraiment, on va rentrer dans l'hôpital et on va se confronter à ça. Pour moi, c'était une éthique d'auteur, je dirais. Mmh.
Et puis, il y a des gens qui vont regarder cette série et qui ont vécu les mensonges, parce que c'est les mensonges de l'autre, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Alors, il y a un formidable personnage qui, là, pour le coup, est un personnage de comédie. C'est le directeur d'une agence d'assurance. Il est le patron d'Elvira.
Quand on ment, faut que ce soit carré et splendide. Et si on n'est pas capable, alors faut dire la vérité. Moi, par exemple, je ne mens pas pour la simple et bonne raison que je n'ai pas de mémoire. Autrement, j'aurais fait un excellent escroc. Bon, vous me direz, assureur. Pour ne pas se faire prendre, il faut une certaine créativité, un grand sens de l'organisation et beaucoup de sang-froid. Moi, je suis trop sentimental.
J'aime beaucoup, beaucoup ce personnage de directeur de l'agence d'assurance qui est interprété par Yves Jacques. C'est drôle d'ailleurs d'avoir choisi l'assurance comme le maître étalon de la vérité, Anne Berest. Enfin, d'où c'est venu?
En fait, je cherchais, pour trouver un métier à Elvira, je cherchais un métier qui a un rapport avec le mensonge et la vérité. Mmh. Et donc, je me suis dit, assureur, on est confronté tout le temps.
Vous aviez le choix, non? Journaliste, politique, non?
Oui, mais et en même temps, c'est un métier, on a tous une assurance, on est tous confrontés à une assurance vie, une assurance scolaire, une assurance maladie. Donc, et ça m'a passionné, j'ai rencontré plein d'assureurs, j'ai trouvé ce monde génial.
Génial, génial. Un dernier mot avec vous, Fabrice Gobert, j'aimerais bien qu'on parle de la direction artistique de Mytho, de l'ambiance, des couleurs. Pourquoi cette banlieue résidentielle, typiquement américaine, avec ses pavillons sans clôture, ces pelouses nickel, ces baies vitrées à travers lesquelles les maîtresses de maison s'épilent les unes les autres, parce que c'est votre signature, ou en tout cas parce que ça le devient, parce que c'est bourré de références cinématographiques américaines. On a cité Tim Burton, mais c'est aussi le Wisteria Lane des Desperate Housewives. Pourquoi?
Déjà parce que c'était écrit comme ça, et que ça se passait dans un domaine pavillonnaire, et pour les raisons que vous avez évoquées, c'est-à-dire que c'est le lieu de c'est un lieu de fiction, moi, que j'aime beaucoup, parce que...
Risque de déréaliser cette histoire, c'est-à-dire c'est quand même pas notre univers, à nous,
non, mais c'était intéressant
français.
De pas être dans quelque chose de réaliste, dans quelque chose de stylisé, parce que c'était...
Pourquoi?
Parce que la fiction, du coup, emmène... Elvira emmène la série dans une direction de fiction, de romanesque, de dramatique qui fonctionne pas, à mon avis, avec trop de naturalisme et trop de réalisme. Là, ce que je trouvais intéressant, c'était d'être dans un univers qu'on a conçu, qui à la fois, parce que ce domaine pavillonnaire, il existe, il est en banlieue parisienne, mais il existe aussi en banlieue de grandes villes françaises. On est effectivement, on sait pas où on est. Et l'idée, c'était de pas savoir où on est, de pas savoir quand on est, pour que ce qui ressorte de ça, ce soit ces personnages très stylisés et auxquels on puisse s'identifier comme des personnages romanesques et en même temps proches de nous. Il y avait cette double démarche.
Anne Berest et Fabrice Gobert. Robert ont signé les mythos. Un mytho, ça suffit et c'est déjà beaucoup. Ça commence demain soir sur Arte, c'est déjà disponible sur le site de la chaîne.
Est-ce que j'ai le droit de donner mon avis?
Mais allez-y.
J'ai adoré le premier épisode que j'ai vu sur Arte.fr. Vraiment, c'est vraiment très réussi. Voilà, Thibaut de Saint-Maurice, spécialiste de série, est d'accord.
Oui, et bien tant mieux aussi, il est d'accord.
Voilà.
Alors de quoi on va parler dans Grand Bien vous
Comment parler de sexualité aux ados à l'ère de la pornographie en ligne, émission spéciale avec France 2 aujourd'hui. Eh bien, dites-nous comment vous en parlez de cette sexualité à vos enfants ou petits-enfants. Et puis si vous êtes adolescent, dites-nous quel est l'impact de ces images sur votre représentation du sexe. 01 45 24 7000.